Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Et si aujourd'hui, j'allais de nouveau chercher les conseils d'une autre cycliste chevronnée sur route ou gravel? Allez, c'est parti! Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter au fil des épisodes de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. Et je dois le dire, je suis assez fier de donner la parole aux femmes dans ces épisodes. Et d'ailleurs, vous allez voir que mon invitée a un côté féministe et défend le cyclisme féminin. Camille Pic, alias Mange tes légumes sur Instagram et sur son blog, m'a été plusieurs fois recommandée. Et je vous remercie car j'ai passé un très chouette moment à discuter avec elle. Camille est venue sur le vélo depuis la course à pied, au départ pour se lancer dans le triathlon. Puis finalement, elle a adoré le vélo. Elle roule sur route, gravel, bikepacking. Et elle apprécie de rouler longtemps et doucement. Elle fait des courses, elle a fait la Race Cross France. Et nous avons discuté justement de son parcours, de sa pratique. Je lui ai demandé des conseils pour progresser, m'entraîner, chercher des traces aussi, me préparer au gravelman. Comment elle voit la préparation, qu'est-ce que je dois faire. Et puis nous avons aussi parlé du plan alimentation, hein, car Camille a une formation de naturopathie et s'est donc intéressée particulièrement à la question. Je lui ai demandé par exemple comment elle se nourrissait sur son vélo, qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner, la différence aussi avec la course à pied. Parce que c'est pas que dans l'alimentation qu'on a constaté une différence, moi je sais que j'ai constaté une différence notamment dans l'alimentation, aussi dans la sensation de froid. Elle m'a donné ses conseils parce qu'elle aussi a constaté quand elle a commencé le vélo qu'on a beaucoup plus froid sur le vélo qu'en courant. Et puis nous avons aussi parlé d'exploration, comment trouver des cartes, des maps, des chemins par exemple, et puis aussi du bonheur de rouler, de ce sentiment de retrouver notre enfant intérieur. Et j'avoue, hein, je fais quelques confidences, oui je chante sur mon vélo, oui mon enfant intérieur s'exprime un petit peu plus encore sur mon vélo qu'un peu plus dans la course à pied. Enfin, ça dépend des moments et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant d'écouter la discussion avec Camille, je vais vous faire un petit point dans ma préparation avec mon fameux fil rouge pour vous dire où j'en suis dans l'entraînement, pour vous rappeler, parce que le but du jeu quand même, c'est d'aller vers le gravelman. Alors la semaine dernière, j'ai roulé 50 km et j'ai fait finalement moins que ce que je voulais. Et la semaine d'avant, j'ai fait 69 km et là, j'en ai fait que 50. J'ai roulé 2h51 au lieu de 3h54 la semaine d'avant. La semaine d'avant, rappelez-vous, j'étais assez content parce que mon but d'arriver à au moins 4 heures de selle, j'étais pas si loin que ça. Bon, là, j'ai reculé. En fait, j'ai fait que 2 sorties alors que j'en vise 3 ou 4. Et j'ai pas pu faire de sorties plus longues que ça. Et notamment parce que ce week-end, je n'ai pas roulé. Alors, il y a des questions d'emploi du temps et de météo. La semaine dernière, pluie. Et puis ensuite, le vent est arrivé. Puis comme c'est un petit vent de Sibérie, là, bien froid, bien frisqué. Et qui soufflait très fort avec des belles rafales, notamment dimanche et même en début de semaine hein, depuis. Ben franchement, ça donnait pas envie de sortir le vélo. Puis même par question de sécurité, je me suis dit je sais pas trop où rouler pour me prendre les grosses rafales par la figure. Je suis allé courir à la place. Mais c'est vraiment une question qui est cruciale pour moi en ce moment. Hein, c'est l'équipement. Et vous allez voir, nous en avons abordé ce thème avec Camille d'ailleurs sur comment est-ce que on fait face au froid. Donc j'ai moins roulé que ce que j'espérais. Hein, mais je progresse dans ma tête, dans mon esprit de faire le Half Gravelman en mois de mai, le 13 mai en Auvergne, hein, comme ça pour découvrir et faire cette première sortie là. D'ailleurs avec Camille on a parlé un petit peu hein, des différentes étapes, de ce que je vais faire, etc. J'ai aussi croisé l'autre jour lors d'un testing course à pied, j'ai croisé des gens qui roulent en gravel, qui m'ont donné quelques astuces. Un magasin aussi qui propose des sorties gravel en groupe par exemple. Et puis aussi j'ai validé que ma petite idée par exemple d'aller faire un aller-retour entre ma maison et Vichy, c'est-à-dire environ 108 km aller-retour, était faisable en gravel. Mais alors la partie que je pensais la plus simple, et ben en fait il m'a dit que c'était la plus galère. Et voilà, comme quoi on apprend des trucs un peu tous les jours. Et c'est aussi pour ça justement que je vais discuter de vélo, que je vais me renseigner, que je vais prendre un petit peu mon cours accéléré en cyclisme, en ultracyclisme auprès de personnes comme Camille. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Camille, c'était un super chouette moment. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à discuter avec elle. Allez, c'est parti. Bonjour Camille.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, ça va bien. Tu sais, moi, c'est toujours un plaisir de discuter, surtout en plus dans une discipline du vélo. Je suis un débutant. Hein. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je suis un newbie total. Moi, j'ai 200 km sur mon vélo.
Ok.
Toi, t'en as beaucoup plus.
Quelques-uns. Quelques kilomètres supplémentaires.
Quelques-uns de plus. C'est quoi ta pratique du vélo en quelques mots? Alors moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent dans ton profil, mais je vais te laisser d'abord te présenter en quelques mots en fait.
Ouais, alors je m'appelle Camille, j'ai 38 ans. Sur Instagram, mon pseudo, c'est Mange tes légumes. Voilà, donc et dans la vie, sinon, je fais de la communication. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai une formation de naturopathe. Ouais. Donc du coup, c'est aussi grâce à ça que j'ai développé Mange tes légumes. Et à côté de ça, bah, ma pratique du vélo, elle est assez vaste. Moi, j'essaye de toucher un peu à toutes les sortes de vélos. Je suis venue au vélo par le vélo de route. J'ai vraiment commencé par ça et c'est mon premier amour. Et puis au final, au fur et à mesure des années, bah du coup je me suis mis au gravel et puis du gravel je me suis dit ah c'est chouette quand même d'être dans les chemins. Du coup ensuite je me suis mis un petit peu au vélo de voyage et au VTT. Donc j'essaye de toucher un peu à toutes les pratiques. Et moi après ce que j'aime bien faire c'est rouler longtemps. Et c'est vrai que j'aime bien ce format-là. J'aime bien les formats un peu longs. J'aime bien rouler longtemps et pas très vite. Ça me convient très très bien. Donc voilà, donc du coup, en gros, c'est ça, quoi. Je fais ça.
Pourquoi t'aimes ce format rouler longtemps et pas très vite?
J'aime bien le côté, et c'est le truc qui m'a le plus plu en vélo dès que j'ai débuté. C'est en fait, moi à la base, je faisais plutôt de la course à pied. Et en fait, en vélo, je me suis dit, ouais, c'est génial parce qu'on peut couvrir des surfaces et voir des paysages incroyable sur une journée. Tu peux faire 200 bornes et tu peux voir vraiment une variété de paysages qui est dingue. Et du coup je me suis dit ouais, c'est fou de pouvoir faire ça à la seule force de tes jambes. Et du coup je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien les grandes distances, que voir sur une carte et me dire ah ouais j'ai fait tout ça genre toute seule quoi, sans moteur, sans rien, et ça me fait vraiment plaisir.
Alors moi c'est quelque chose que je découvre parce qu'effectivement moi je suis dans la course, je cours tous les jours depuis un an et demi et tout, et c'est vrai que depuis que je fais du vélo je me suis rendu compte que mon terrain de jeu s'est quand même sacrément agrandi. Alors moi 200 km dans la journée c'est pas encore mon truc hein, pour l'instant je suis trop débutant, c'est mon volume sur le mois de février, les 200 km, mais c'est vrai que le terrain de jeu il est immense quand t'es en vélo parce que tu peux aller super loin, hein, tu peux faire des trucs incroyables.
Ouais, tu peux passer. Moi, j'ai la chance d'habiter au Pays Basque, donc c'est vrai que tu vois, je peux passer d'une même journée d'être au bord de l'océan et puis quelques heures après être vraiment dans la montagne et après revenir chez moi. Et du coup, je trouve ça super chouette. Je trouve que le terrain de jeu, il est vraiment illimité. Et plus tu évolues dans ta pratique et plus tu découvres qu'en plus, tu peux découvrir ta région ou d'autres d'ailleurs. Aussi bien sur la route que sur les chemins et tu vois vraiment beaucoup beaucoup d'autres moi je vois beaucoup de choses et mon rapport à la nature il a aussi changé grâce à ça parce que ça t'amène à voir avoir plein de choses que tu verrais pas si t'étais en voiture par exemple. Tu prends beaucoup plus le temps aussi de regarder et ça c'est un truc que moi j'apprécie énormément.
Ta plus grande distance sur une journée, sur des courses, parce que on n'a pas parlé finalement des différentes courses que tu as faites, mais c'est quoi? Tu es allé jusqu'à combien en fait?
Le plus gros que j'ai fait, c'est sur la Race Across France. C'est le format 500, donc qui fait à peu près 540 km en tout. Et je l'ai couvert, si je te dis pas de bêtises, environ en 34 heures.
D'accord. Comment ça se prépare un truc comme ça en fait? Parce que alors là, moi vraiment, tu vois, j'ai aucune idée de comment tu fais pour préparer un truc comme ça.
Faut beaucoup rouler. En fait, il y a pas de secret. Et je pense que, c'est pas pour démystifier le truc, mais je reste convaincue que c'est accessible à tous. Le secret, en fait, il vient vraiment dans le fait d'habituer ton corps
à cette position sur le vélo, à rouler souvent, à rouler, à t'habituer à rouler la nuit, à t'habituer à rouler le jour, et à faire de plus en plus de distance, de week-end en week-end, de semaine en semaine. Ça te demande de rouler un peu. Enfin, c'est vrai que c'est des gros volumes d'entraînement. Et au final, pour que le jour J, et je pense que c'est un peu ça le secret de la réussite sur l'ultra, c'est que le jour J, t'es tellement bien préparé qu'en fait, tu fais que prendre du plaisir, quoi. Tu fais, mais voilà, c'est des heures et des heures de sel. Et puis au bout d'un moment, ton corps, il est habitué à ça. Et du coup, quand il faut faire les 500, tu sais que à l'entraînement, t'as déjà fait ça sur des semaines, t'as déjà fait ça sur des week-ends. Et du coup, que ça va bien se passer et que tu vas pouvoir profiter à fond de la course, quoi.
Ça m'intéresse, là, tu vois, ce que tu viens de dire. Tu dis que tu l'as déjà fait sur week-end, sur une semaine. C'est-à-dire que, on va dire, par exemple, pour la race Cross France, les 540, c'était sur les semaines, tu savais que 500 km, tu le faisais sur la semaine?
Ouais, et ce que tu peux faire aussi, par exemple, ce qui marche assez bien, c'est que moi, je n'avais pas forcément le loisir de prendre... de faire des grosses sorties de 400 pour me tester parce que je bossais la semaine et que ça a tendance quand même à se fatiguer un peu si tu vas te taper des énormes kilométrages en plus de ta semaine de taf. Donc ce qui m'arrivait de faire, c'était de rouler par exemple le samedi toute l'après-midi jusque tard,
ouais,
tu vois, jusqu'à minuit. Ensuite, tu rentres, tu dors un tout petit peu, tu essaies de dormir 3-4 heures, et ensuite tu te lèves tôt, tu repars. Ça apprend aussi à ton corps à fonctionner, même avec peu de sommeil, et à rouler sur la fatigue, qui est un truc que tu apprends au fur et à mesure, mais qui est un bon moyen de s'entraîner. Donc, tu roules un peu, après, il faut faire aussi d'autres choses à côté, faut faire un petit peu de renforcement musculaire. Moi, je faisais pas mal de yoga aussi quand je préparais, histoire de... le vélo, ça a tendance quand même à te tasser un peu. Donc du coup, ça faisait du bien de pouvoir étirer. Et voilà, et du coup, habituer le corps à faire des gros volumes, c'est aussi compatible avec un travail assez prenant. Mais faut bien le gérer. Et je trouve que ouais, ça, c'était... Enfin, une de mes coachs qui avait ça et qui m'avait dit, il n'y a pas de souci de ne pas pouvoir rouler 500 bornes ce week-end. Par contre, tu essayes de faire des 200, 300 en te couchant tard, en te levant tôt, pour habituer le corps à cet effort-là, quoi.
Ouais, c'est vraiment intéressant comme stratégie. C'est des stratégies aussi qui ont. Bon, ça ressemble un peu au week-end choc qu'on a en trail sur les courses comme ça. Mais c'est vrai que le faire comme ça l'après-midi, soir, puis après repartir le lendemain, je comprends très bien la logique par rapport à la fatigue, tu vois. Donc j'ai noté sur ma petite case là de dire tiens, ça c'est une bonne idée. Bon, je vais attendre un peu parce qu'en ce moment ça caille un peu, mais je suis un peu frileux moi sur le vélo encore pour l'instant, mais je sais que je suis pas habitué. Autant en cours j'avais toujours chaud, autant en vélo j'ai toujours froid pour le moment. J'ai pas trouvé le bon équilibre.
C'est normal. Ça va venir. Moi, je t'avoue que les premières sorties en vélo, ça m'a fait très bizarre aussi parce que je me disais, de toute façon, je vais chauffer. Donc, ça sert à rien de trop se courir. Et j'ai souvenir des premières sorties où j'étais mal équipée et où j'étais frigorifiée tout du long. Parce que oui, ton cardio monte pas aussi haut, ton corps ne chauffe pas pareil. Et puis, en plus, t'as les descentes qui, mine de rien, sont pas à négliger parce que tu peux vite avoir très très froid, surtout sur les descentes de col, etc. Après un effort où tu as fait une heure, deux heures, trois heures d'ascension et où tu as eu très très chaud. Donc les variations de température de ton corps sont très différentes de la course à pied et tu as plus rapidement froid. Et c'est un truc sur lequel faut être assez vigilant parce que tu peux vite te retrouver en hypothermie, quoi.
Bon, je l'ai constaté, tu vois, j'ai pu tester le truc. Comment t'es venu au vélo, en fait? Parce que tu me disais que t'es de la course à pied. J'ai vu sur ton site, quelque part, t'as roulé en fixie à un moment donné, non?
Tout à fait. À Paris, moi, j'étais assez partisane. J'étais assez partisane du fixie en tant que moyen de transport. Donc, je faisais un petit peu de vélo comme ça. Après, ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la route, c'est qu'en fait... faisant de la course à pied, à un moment, j'ai voulu faire du triathlon.
Ouais.
Du coup, je me suis acheté un vélo de route et j'ai commencé à faire du tri comme ça. Bon, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que je suis tombée très amoureuse du vélo de route. Et en fait, je me suis rendu compte que nager, je n'avais quand même pas ça. La course à pied, j'en avais un peu marre, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, je me suis retrouvée à faire que du vélo, quoi.
C'était il y a combien de temps? Ça y est, 7-8 ans, 7 ans?
Ouais, environ à peu près 8 ans, je pense.
Et comment t'es passé de ces débuts-là, en disant je découvre le vélo, j'adore le vélo, etc., à ce que t'as fait ensuite, Race Cross France et voyage à vélo, etc.
Début, c'est vrai que il y a eu la partie du triathlon, donc qui est très course, qui est très compète, etc. Que bon, j'aimais bien, mais il y avait un côté, très compétition contre les autres, en fait, que j'ai un peu retrouvé quand j'ai fait mes premières cyclos. Et je me retrouvais pas forcément dans le public des cyclos sportifs, je me retrouvais pas forcément non plus dans le public du triathlon. Et du coup, c'est là aussi où j'ai commencé à changer un petit peu de pratique, où je me suis dit, tiens, bah, le gravel, c'est cool, il y a moins cet aspect compète, il y a moins cet aspect performance. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Arnaud Manzanini, et qui lançait la Race Cross France à l'époque, et qui m'avait dit, ah bah, ce serait super que tu viennes, que tu et tout, et moi à l'époque ça me semblait vraiment très difficile, et plus j'en parlais avec Arnaud et plus je voyais les gens le faire, plus ça me donnait envie. Et je vais participer à la première édition, je pense, et au final j'avais pas pu, et en fait j'avais vu les gens participer, j'avais vu une de mes amies avec qui je devais le faire qui s'appelle Amélie Chuin. Et du coup, elle avait l'air de s'être tellement éclatée, en fait. Je me suis dit, ouais, faut vraiment, vraiment que j'essaye. Donc, j'ai dit à Arnaud, bon, bah, par contre, je serai là l'année prochaine. Et j'y suis allée l'année suivante pour tester le 300. Et en fait, enfin, là, pour moi, c'était un peu la révélation. Je m'étais dit, bon, bah, c'est qui tout doux. Soit j'adore, soit vraiment le format court, c'est pas fait pour moi. Et en fait, je me suis retrouvée à faire mon 300, à être dans ma bulle pendant 24 heures, à vivre une expérience incroyable. J'ai adoré rouler la nuit. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super apaisant, super calme. Il faisait beau. Enfin, c'était vraiment super. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que j'aime bien. C'est ce format que j'aime bien. Ce format où, en fait, de toute façon, la course, elle est tellement dure. Et ça dépend de tellement de facteurs autres que le facteur physique. Quand je dis, ah bah cool, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. Voilà.
Tu l'as dit, t'as une formation de naturopathe.
Ouais.
Alors ça me fait rire ton compte mange tes légumes, parce que je me rends compte que c'est peut-être le mot que je dis le plus souvent à ma fille en ce moment.
C'est celui que ma mère me disait le plus souvent aussi.
Et moi, ça m'énervait quand mes parents me disaient ça quand j'étais gamin, mange tes légumes, mange tes légumes, mange tes légumes. Et je me rends compte que 40 ans plus tard, c'est moi qui les répète. Comment tu vois la naturopathie, ta pratique et le vélo? Comment l'un t'aide dans l'autre?
La naturopathie, pour moi, ouais, ça a été vraiment la révélation, parce que j'avais pas forcément de formation là-dedans. Et en fait, je me dis, dans l'effort sportif, il y a forcément tes capacités, il y a forcément ta charge d'entraînement qui vont conditionner ta performance sportive. Mais au final, ce qui est hyper important aussi, c'est ce que tu manges. Et du coup, moi, je me suis dit, si je trouve la bonne façon de manger pour ne pas faire de fringales, ne pas faire d'hypoglycémie, ne pas être malade, parce que c'est vrai qu'en course à pied, je voyais beaucoup de gens, et sur le triathlon aussi, qui se rendaient malades à force de prendre des gels, de prendre des trucs comme ça.
Ouais.
Et en fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce que la naturopathie, elle peut aller pour justement pas être confronté à ça, et qu'en fait l'alimentation, quand tu es en course, ce soit pas un sujet de stress. Tu vois, et du coup c'est vrai que moi je fais un peu la guerre au sucré sur le vélo en général. J'essaie beaucoup plus de manger salé et d'encourager les gens à le faire. J'essaie aussi beaucoup de c'est moins évident, enfin en course à pied t'as ça aussi, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de manger comme on les fait.
Ouais.
C'est super important. Plus tu allonges les distances, et du coup, voilà, moi j'ai vraiment bossé là-dessus. Quoi, en me disant, qu'est-ce que je mange le matin? J'avais tendance à beaucoup m'entraîner à jeun. En fait, je me rendais compte que si en course à pied ça marchait très bien, en vélo ça marchait beaucoup, beaucoup moins bien. Et ouais, l'alimentation, elle commence pas le jour de la course, elle commence bien avant, elle commence déjà dans les semaines qui précèdent, et la manière dont on s'alimente et dont on fait ses réserves de glycogène. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, ça vient aussi conditionner tous tes entraînements. Parce qu'en fait, les entraînements, c'est pas que pour le corps. C'est aussi ce que tu vas apprendre à manger sur le vélo. c'est pas toujours évident de manger, c'est pas toujours évident d'avoir de l'appétit. Donc pour moi, ça a été aussi apprendre à manger même quand j'avais pas faim, parce que j'avais tendance à toujours attendre d'avoir faim avant de commencer à manger. Sauf que sur le vélo, si tu fais ça, t'es mort, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard si tu commences à avoir faim, quoi.
Et tu as dit que autant courir à jeun, ça passait, autant faire les sorties en vélo à jeun, ça passe pas. Comment tu l'expliques ?
Ouais. Parce que je pense que moi, sur mes sorties course à pied, moi, je suis jamais allée au-delà du semi. Et du coup, c'est quand même un effort qui est assez court, qui est aussi assez intense, puis sur la digestion, qui a tendance, un peu à acidifier l'organisme quand même. Quand tu cours, quand tu fais du fractio, etc., tu le sens bien que ça peut vite te couper l'appétit. Et du coup, c'est vrai que pour faire des footings de 30 minutes ou même pour faire des sorties d'une heure, ton organisme normalement, enfin en tout cas le mien, fonctionne très bien sur ses réserves.
Ouais.
Par contre, au-delà d'une heure, moi je l'ai vu sur le vélo. Après, je suis un tout petit gabarit et je suis pas très épaisse, donc je pense qu'en termes de réserve, c'est assez limité. Et du coup, j'ai bien vu que ouais, si je partais et que je faisais 3 heures de vélo alors que j'avais pas petit déjeuner, bah en fait au bout d'une heure et demie, j'avais plus de jambes, il y avait plus personne, quoi. Donc je me suis dit ok, bah en fait c'est important sur le vélo de manger avant, de manger davantage pendant, et puis de bien comprendre ce qui me fait du bien. Et ce qui m'aide à performer et ce qui m'apporte les calories suffisantes pour pouvoir rouler pendant très longtemps. Encore une fois, en ultra, tu roules pas très vite, ni bout à bout. Moi, je pense que sur la Race Cross France, tu vois, sur le 500, ma moyenne, elle doit être à 18 ou 19 km heure. Bon, après, il y a beaucoup de D+, hein. Il y a 10 000 mètres de D+, je crois. Donc forcément, ça conditionne aussi un petit peu ta moyenne. Mais c'est vrai que dans l'absolu, tu ne roules pas très vite, mais par contre, il faut quand même nourrir la machine pour que ça marche pendant plusieurs dizaines d'heures, quoi.
Ouais. J'ai un dire. Bon, il y a un avantage que j'ai découvert avec le vélo, quand même, c'est qu'on peut manger autant en course. Si tu manges juste avant de partir, ça va pas. Autant ouais. Là, c'est un peu plus facile quand même, je trouve, à caser le repas par rapport aux heures d'entraînement, en fait.
Clairement, t'es sur un effort qui est quand même moins violent. Donc du coup, c'est plus facile. Si tu veux, l'organisme a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, ton organisme, si tu lui demandes à la fois de faire un effort qui est assez violent, ce qui peut être le cas en course à pied, plus de digérer, en fait, il va décider de faire ou l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que souvent, en course à pied, tu vas te retrouver à avoir très mal au ventre et besoin d'aller aux toilettes. Ou envie de vomir, parce qu'en fait, ton organisme va te dire je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Donc, du coup, on va expulser tout ce qui me dérange pour pouvoir faire l'autre action que tu es en train de faire, quoi.
Ça t'arrive jamais en vélo d'avoir mal au ventre ? Enfin, c'est juste parce que moi, ça ne m'est pas arrivé encore, mais je me dis, est-ce que c'est un truc qui peut arriver quand même ?
Alors, ça peut arriver. En général, ça arrive si tu manges, soit des trucs que tu n'es pas du tout habitué à manger. Tu vois, et que tu vas tester, mais ça, c'est exactement comme en course à pied, hein, c'est tester un truc que t'as jamais pris pendant l'effort, c'est jamais une très très riche idée, parce que peut-être que ton organisme le tolère pas, sauf que tu vas le découvrir au plus mauvais moment. Et l'autre chose, c'est si tu manges super super sucré, au bout d'un moment, en fait, ton corps va avoir trop de sucre, en fait. Il va faire une overdose et du coup, tu vas plus avoir envie de rien manger du tout. Tu vas te retrouver un peu fébrile, avoir même des migraines, des choses comme ça. Ou alors, tu vas avoir super mal au ventre parce que c'est beaucoup trop de sucre d'un coup, que tu manges pas ça d'habitude et que l'organisme ne va pas comprendre ce qui lui arrive, quoi.
Enfin, on va creuser le sujet, mais par exemple, sur un petit déjeuner avant de partir rouler, tu mises sur quoi en fait alors ?
Moi, je mise à la fois sur de la protéine. Donc, en général, après, moi, j'adore les œufs. Donc c'est vrai qu'en général, j'essaye toujours de me faire des œufs sous une forme ou une autre, que ce soit des œufs brouillés, des œufs au plat, des omelettes, ou des œufs durs, tu vois, des choses comme ça. Et après, j'essaye aussi de manger du gras. Donc, en général, j'aime bien l'avocat aussi au petit-déj. Tu vois, c'est vraiment... ça apporte une bonne dose de lipides, etc. Et après, j'essaye quand même, moi, je prends un petit peu de glucides. Après, il y a plusieurs écoles Et en ce moment, il y a un mouvement keto qui se développe assez fortement, qui est assez contre le pain et les pâtes, etc. Je pense que ça marche très, très bien pour certaines personnes. Après, c'est prouvé. C'est quand même mieux sur les physiologies masculines que sur les physiologies féminines. Les physiologies féminines ont en général davantage besoin de carbohydrates. Donc, bon, après, je mange du complet, des toasts, des trucs comme ça pour avoir quand même un peu de carbs pour faire des réserves pour l'effort.
Ouais. Et alors, la question qui va avec, c'est finalement après, pendant l'effort, comment tu gères l'alimentation ?
Alors, moi, pendant l'effort, ce que j'adore, c'est les... Il y a plusieurs marques qui le font, c'est des petites... comme des compotes, comme des pommes potes, ouais. Mais salées. Donc, du coup, t'en as... Enfin, moi, il y a vraiment une marque que je trouve hyper bien qui s'appelle Fort Ultra, où tout est fait en France et c'est des compotes. T'as compote de betterave, compote de pois chiches, pommes de terre carotte... Donc, c'est format pomme-pote, mais salé. Donc, ça, pour moi, ça marche hyper bien. Tu trouves de plus en plus de barres salées aussi. Donc, ça, je sais que chez Baou, ils en font notamment, qui sont vraiment bonnes.
Ouais,
donc, je mange un petit peu ça. Leurs compotes salées sont très bonnes aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, globalement, je trouve que leurs produits sont quand même assez bons. Et je mange ça. Et après, bah, en ultra... Ça, c'est quand tout se passe bien, tu vois, tu as tes réserves, tu fais ton truc et tout. Après, tu peux pas emmener ta bouffe pour 36 heures. Ouais. Tu peux pas tout contrôler non plus. Donc, l'autre truc, c'est qu'après, bah, quand tu t'arrêtes, en général, tu vas au supermarché et tu prends un peu ce que tu trouves. Donc là, c'est pareil, bah, faut se connaître un peu. Faut se dire, OK, moi, je sais que, tu vois, après, il faut prendre aussi des trucs qui te font plaisir. Parce que t'es dans un état où, en fait, c'est très bien l'ultra, hein, parce que tu penses que à genre deux choses, c'est quand est-ce que tu vas manger et quand est-ce que tu vas dormir. Donc, la vie se simplifie énormément quand t'es concentré que sur ces deux points-là, ouais, de ton existence. Et c'est vrai que, après, moi, je peux très bien m'arrêter, j'aime bien manger des tucs, j'aime bien manger du Babybel, tu vois, je mange des trucs comme ça que tu trouves n'importe où. Qu'est-ce que j'aime bien manger d'autre, à la limite un peu de viande séchée, donc soit des saucissons, soit genre du bœuf, genre de la viande des grisons, des choses comme ça.
Ouais.
Ça marche assez bien pour moi, donc je fais des petits sandwichs, quoi.
Ouais.
Je fais des petits sandwichs fromage charcut. Je mange pas mal de fruits aussi. Si je dois avoir du sucre, je préfère que ce soit du sucre qui vienne des fruits. Et après si en sucré, là j'utilise beaucoup les produits de Meltonic. Et je les trouve vraiment vraiment pas mal parce que moi j'ai pas une grosse appétence pour le sucré.
Ouais.
Et là tout ce que j'ai goûté pour l'instant c'est vraiment très très bon. Donc c'est beaucoup à base de dattes, à base de graines, à base de sucres qui sont naturels et de miel. Donc ça fait quand même plaisir aussi quand t'as une petite envie de sucre de manger ça plutôt que de manger des Snickers ou des bonbons quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que souvent on voit les images de certains en ultra qui s'arrêtent. Et puis alors, moi, parce que j'ai beaucoup regardé Stéphane Levery qui des fois, sur les grandes courses, c'est vrai qu'il a une alimentation que on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'il mange? Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, bah, ouais, mais il me dit de façon au vélo, tu vas voir par rapport à la course, tu peux te faire plaisir, tu peux manger n'importe quoi et tout. J'ai dit, ouais, mais ça, en fait, ça me faisait bizarre, tu sais, d'avoir cette vision alimentation en disant en mangeant autant de trucs sucrés, parce qu'il y a des courses où ils mangeaient vraiment des trucs vraiment très sucrés, des bars, etc. Et alors que ça fait des années que moi, dans ma vie, j'essaie justement de rééquilibrer, tu sais, j'ai perdu 30 kilos, je me suis remis au sport, ma femme est naturopathe en plus, donc tu vois, j'ai cette vision-là.
Ouais.
Et puis d'un coup, j'avais dans le vélo, je voyais des... Je me suis dit, mais attends, ils s'arrêtent dans les boulangeries, etc. C'est vrai que j'avais cette vision qui était drôle, mais en même temps, qui est un peu séduisante, tu vois, pour moi. Parce que, en course à pied, quand je le fais, alors je l'ai fait l'été dernier, hein, tu vois, je préparais un 24 heures, je partais courir 30 km, je m'arrêtais, manger un pain au chocolat, et puis je repartais. Mais en vélo, tu vois, je me suis dit, je peux le faire plus facilement. Alors, c'est un côté à la fois surprenant et un côté un petit peu séduisant, tu vois, je sais pas trop comment me positionner là-dessus.
Ouais, bah, après, c'est un peu ce qui marche pour l'un va pas forcément marcher pour l'autre. Mmh. C'est une approche un peu personnalisée. Après, c'est vrai que, quand tu es sur de la dépense énergétique, comme Steven, ou tu vois, même, je rigole parce que je repense aux sneakers, mais c'est vrai que Nathalie Bayon, je pense que c'est un peu, tu vois, son plat préféré en course. Et voilà, mais après, on se parle d'athlètes qui se connaissent par cœur. qui savent, tu vois, qui savent exactement comment leur corps fonctionne, qui sont habitués à ça. Et du coup, il y a une telle dépense énergétique aussi que, bah, à un moment, un, tu manges ce qui te fait envie, deux, tu manges ce que tu trouves. Et du coup, bah, c'est encore assez facile quand t'es en France, bah, parce que t'as des boulangeries, tu peux quand même avoir des bons sandwichs, ou tu peux avoir des salades, tu peux trouver des trucs. C'est vrai que quand tu fais des courses dans d'autres pays où, en fait, ton alimentation, ça va être de l'alimentation de station-service, parce que c'est surtout ça que tu vas trouver ouvert 24 sur 24.
Ouais.
Bah, du coup, là, là, tu manges ce que tu trouves, hein, et faut lâcher prise là-dessus et se dire, bon, bah, même si toute ma vie, je mange parfaitement, bah, en course, je mange un peu différemment. Après, moi, tu vois, je dirais pas jusqu'à dire, ouais, en vélo, tu peux faire ce que tu veux. Pas, enfin, pour deux points, hein. Le premier, c'est que, en effet, c'est pas parce que quelqu'un digère très bien que toi, ça va être ton cas. Et le deuxième, c'est que, quand tu mets longtemps à te défaire de mauvaises habitudes, comme l'addiction au sucre peut en être une, bah du coup, si dès que tu fais une sortie vélo, tu te remets des pics de glycémie monstrueux parce que tu te dis, bon, bah, je peux manger tout ce que je veux, tu défais un peu tout le travail que tu as fait sur ton organisme à le déshabituer de cette mauvaise habitude qui est le sucre, quoi.
Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus aussi. C'est pour ça que j'ai fait gaffe aussi. Puis je sais à quel point je suis. Moi, le sucre, j'adore ça. C'est vrai que j'en ai mangé tellement dans ma vie que je me suis déshabitué. Mais c'est une drogue à laquelle on revient tellement facilement. c'était ça qui était drôle. J'ai une question sur le. Donc tu fais. Tu me dis, on parlait de gravel, etc. C'est quoi ta proportion? Parce que tu fais des voyages aussi en vélo, non?
Ouais, pour l'instant, j'ai pas fait des grands trips de plusieurs jours. J'ai plutôt fait des petits trips de bikepacking sur 2-3 jours. J'aimerais bien pousser un petit peu plus ça, mais c'est vrai que bah ça demande un peu de temps et d'organisation. Mais c'est une façon encore complètement différente d'aborder le vélo, quoi. C'est vraiment t'es purement dans la découverte, t'es purement dans le. C'est les vacances, quoi. C'est vraiment, pour moi, je le vois comme les vacances à vélo. Il n'y a pas de. Le seul enjeu, c'est d'arriver suffisamment tôt pour pouvoir planter ta tente à la lumière du jour et de savoir à peu près où tu vas pouvoir dormir et trouver à manger. Et du coup, ça, c'est chouette aussi. Moi, j'aime bien.
Tiens, alors là, ça, tu m'amènes sur une question. Puis tout à l'heure, j'ai failli la zapper. Tu sais à peu près où tu vas dormir. Moi, c'est vrai qu'il y a un truc en vélo que je découvre. Et comme le territoire s'allonge, je suis un peu. Je sais pas encore trop comment faire. C'est sur les traces. Tu sais, je dis, tiens, je vais à tel endroit. Par où passer? Alors, j'avais demandé la semaine dernière à Nathalie Bayon s'il y avait des conseils. Comment toi, tu prépares, en fait, tes sorties, tes entraînements, par où tu vas passer, etc. Tu le gères comment, ça?
Je pense que je vais faire la même réponse que Nathalie, mais moi j'utilise beaucoup Komoot.
Ouais.
Je trouve que Komoot c'est un très très bon outil pour mapper, pour regarder un peu comme tu peux voir là où sont passés les gens précédemment. Bah du coup tu peux voir les points d'intérêt, donc te dire ok bah là ça a l'air vraiment très très beau et du coup ça te permet de découvrir des choses que peut-être toi t'aurais pas découvert. Par toi-même, donc j'utilise beaucoup ça. Après, je regarde aussi pas mal sur bikepacking.com et je pense que pour le voyage à vélo, il y a des super traces. Ils expliquent tous les itinéraires, ils expliquent vraiment où tu peux dormir, ce que tu peux faire, etc. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Après ouais moi j'aime pas partir, j'ai un sens de l'orientation qui est absolument catastrophique, donc j'ai toujours de partir à l'aveugle. Je fais toujours des traces. Après ça m'amène des fois à découvrir des nouveaux chemins. Et puis quand typiquement tu vois sur les bikepacking, ce qu'on avait beaucoup fait quand j'en faisais, c'est qu'en fait on faisait des repérages.
Ouais.
Tu vois, on se dit, bah, on veut faire un bikepacking pas très loin de la maison, on veut proposer à des gens de venir, et du coup, bah, on va aller tester, un jour, on va tester une première partie de la trace, la fois suivante, on va prendre le train pour aller au bout de la trace et tester un autre bout, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu rattaches les wagons de tout ce que t'as fait en me disant, ok, bah, là, c'était cool, là, par contre, c'est une grosse route, c'est vraiment pas sympa, faudrait trouver un plan B, là, il y a trop de ronces, ça passe pas. Et du coup, ça te permet, le jour du bikepacking, de ne pas te retrouver dans des galères avec ton vélo qui est chargé, etc. Donc, pour l'instant, tu vois, la grosse aventure de moi, je sais pas trop où je vais dormir. Moi, je l'ai pas encore fait. J'aime bien quand même savoir à peu près, genre, comment ça va se dérouler. Ça me conforte un peu.
Oui, mais je comprends. Mais toi, et c'est vrai que l'autre jour, j'étais un peu surpris par Komoot parce qu'il m'a proposé un choix qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'il y avait une grande route et une petite route. Il m'a laissé sur la grande route. Alors, comme je connaissais la petite route parce que je l'avais repéré un jour, j'ai dit, je prends la petite route, je sais où je vais arriver. Après, il a retrouvé son truc. Mais sur la logique, je me suis dit, mais pourquoi il me fait passer par là? Donc, je me suis dit, j'ai dû louper un réglage ou quelque chose comme ça, tu vois. Ou alors, il considère, j'ai mis gravel débutant, tu vois, je sais pas quoi. Il a dû considérer que le petit bout de chemin, il y avait un endroit qui était trop compliqué pour moi, j'en sais rien en fait.
Ouais, c'est possible. Après, c'est vraiment, et c'est un peu ce qui fait la force de Komoot, c'est que c'est construit en fonction de ce que déclarent les utilisateurs. Donc du coup, tu peux ensuite aller sur l'appli et déclarer, bah tiens, ce segment, c'est quand même genre route très passante, et il te sera plutôt conseillé si tu mets l'option cyclisme sur route. Et versus s'il y a des passages gravel et que toi tu déclares, bah ça c'est un super passage gravel, vraiment cool, bah après il aura tendance à plus le recommander à d'autres. Mais c'est vraiment, je pense que l'outil pour l'instant il est à 10% de ce qu'il est capable de faire, parce qu'il va se construire au fur et à mesure que les utilisateurs testent les routes, font des retours et permettent de délimiter les terrains de jeu, quoi. Donc il y a toujours des surprises avec Komoot, faut être préparé, comme des fois t'es en vélo de route et il t'envoie sur des trucs et c'est quand même plutôt gravel.
Ouais.
Et voilà, et du coup, moi j'aime bien, tu vois, ça me fait des surprises, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Je trouve ça rigolo, quoi.
Ouais, moi, c'est vrai, il faisait plutôt l'inverse. Il me sortait de la trace gravel pour mettre sur la trace route. Bon, après, ouais. C'est vrai qu'avec le repérage, je commence à repérer à peu près où j'étais. Donc, je me suis bien arrivé là où je pensais. Mais sur le coup, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais pourquoi il me laisse sur cette route-là? Et puis, il me l'a refait après, le coup d'après. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que je vérifie les réglages.
Ouais, ah ouais, ça peut valoir le coup.
Ouais, et puis surtout que la route était vraiment pas sympa. Parce que c'est vrai que par contre, ça, moi, c'est le truc du gravel. Moi, je voulais pas faire de route. Parce que tu sais, moi, j'aime bien quand je cours, je pars un peu de route, je prends mes chemins, etc. Et le gravel permet de le retrouver, quoi. Et c'est vrai que la route, les bagnoles, elles roulent vite, etc., tu vois. Et je me dis, je sais pas comment toi tu le vois, parce que ça fait quelques années que tu roules quand même, mais le gravel, il a vraiment cet avantage-là, c'est qu'il permet en fait de vraiment d'aller à plein d'endroits différents sans être dans ce truc, je suis obligé d'être sur la route ou alors je fais que du VTT. J'en parlais hier avec des gens qui font du gravel aussi, qui me disaient, ouais, mais moi, j'ai vraiment cette liberté que j'avais pas quand je faisais les autres pratiques. Je sais pas comment toi tu le vois, ça.
Après, alors, je pense que le sujet du vélo de route, c'est un sujet qui est limite politique.
Ouais.
C'est la manière dont on occupe l'espace sur la route. Et j'ai tendance à penser, j'ai tendance à penser, c'est qu'en fait, les vélos ont leur place sur la route, les vélos ont leur place en ville, les vélos ont leur place en campagne. Et je pense que moi, je veux vraiment pas lâcher cette pratique. Un, parce que j'aime bien le sport, et deux, parce que je me dis, moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où, en fait, c'est la bagnole qui prend le dessus sur tout, quoi.
Ouais.
J'ai mis très, très longtemps à passer mon permis de conduire. J'aime pas spécialement conduire. Et du coup, plus il y a de monde sur la route. Moi, j'ai, tu vois, la chance d'habiter pas très loin de la frontière espagnole.
Ouais.
Et c'est très, très marrant parce que quand tu roules en Espagne sur la route, le comportement des automobilistes espagnols n'a rien à voir avec le comportement des automobilistes français. Et j'en ai parlé avec des potes espagnols qui m'ont expliqué qu'il y avait eu des grandes campagnes de sensibilisation, plein de pubs télé. Au pied de chaque col, il est bien précisé qu'il y a des vélos et qu'il faut y faire attention. Et du coup, les automobilistes attendent vraiment pour te doubler. Il y a des camions qui peuvent faire une montée de col derrière toi pour ne pas te mettre en danger, pour ne pas te doubler. Donc du coup, je me dis, c'est possible. C'est tout à fait possible. On a l'exemple d'un pays qui est très, très proche du nôtre où les automobilistes ont été éduqués à ça et savent qu'il faut respecter les cyclistes, qu'il faut y faire attention et que les gens, ils sont pas là pour te faire perdre 5 minutes. En fait, ils sont dans leur pratique sportive, ils sont dans leur passion. C'est parfois leur métier et que du coup, toi, dans ta voiture, tu n'as aucun droit de les mettre en danger. En fait, que ton devoir, justement, c'est de partager la route. Les routes, elles sont payées avec nos impôts. La dernière fois que j'ai checké, c'est pas parce que tu avais une voiture que ça te donnait plus le droit d'utiliser la route qu'un cycliste. Et du coup, ouais, moi, plus ça va, plus je fuis le conflit. J'ai pas du tout envie de m'embrouiller avec les voitures, etc. mais enfin avec les automobilistes, parce que les voitures en général ne font rien d'elles-mêmes.
Non.
Mais par contre, tu vois, je pense que ouais, c'est un peu un sujet, c'est que si on décide tous de sortir de la route, bah en fait, c'est un espace qu'on récupérera pas après. Alors que s'il y a de plus en plus de cyclistes, et c'est le cas, je vois à Paris, bah maintenant c'est fou. Enfin moi, entre l'époque où je vivais à Paris et le peu de gens qu'il y avait à vélo, et aujourd'hui il y a des embouteillages de vélos. Mmh. Je me dis bah c'est génial, parce qu'en fait en mettant en place les bonnes infrastructures, en essayant au maximum de développer ça, les gens se mettent au vélo, les gens font plus de sport, tu vois, c'est hyper positif. Et il faut que sur la route, en particulier pour les femmes, tu vois, en général les femmes quand elles débutent le vélo, c'est plutôt par la route.
Ouais.
Parce que le gravel ou le VTT, ça demande parfois un petit peu de capacité de pilotage et ça peut être un petit peu plus flippant. Et du coup, je me dis, bah voilà, même pour que les femmes, elles occupent l'espace public, c'est hyper important qu'on continue à faire du vélo de route. Et puis après, il y a un autre truc en route qui est incroyable, c'est que bah ouais, sur les distances que tu couvres, bah tu peux couvrir des distances immenses en route avec un confort qui est dingue, quoi. Et tu peux vraiment parcourir. Enfin voilà, tu peux parcourir des pays entiers grâce aux routes, et c'est dommage si on les laisse aux voitures, quoi.
Ouais. Non, mais je suis d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ce principe-là. C'est vrai que plus il y aura de vélos et plus ces voitures seront obligées de faire attention, plus. Et l'Espagne est un pays qui est au sud de la France, parce que souvent on nous dit oui, mais c'est les pays nordiques qui font attention et tout, mais bon, l'Espagne, c'est au sud. Donc il n'y a pas que, ouais. Y a pas que les gens du nord, en fait, qui peuvent faire attention.
Non, non, écoute, l'Espagne marche très bien aussi. Après, c'est sûr que si tu prends l'exemple des Pays-Bas, bon, là, c'est tout est pensé pour le vélo. Donc c'est encore très différent, mais je vois, enfin en Espagne, la pratique sur route, bah tu le vois, il y a beaucoup plus de femmes dans les pelotons, il y a beaucoup plus de gros pelotons aussi, chose qu'en France, tu vois, on a tendance à pas trop faire, parce que dès que tu sors en peloton, tu sais qu'à un moment va y avoir sûrement un problème.
Ouais.
Et du coup non, en Espagne ils sont tous très sereins là-dessus, et du coup moi je me dis bah on a plein de trucs à apprendre, et la sensibilisation, je trouve ça dommage qu'elle se fasse qu'au moment du Tour de France, en fait. Pour moi, elle devrait avoir lieu toute l'année, quoi.
Ouais. Tu parlais des femmes, notamment. C'est la cause des femmes du cyclisme féminin. C'est quelque chose qui tient à cœur. Hein.
Ouais, bah depuis le départ. Depuis, en fait, la première sortie de vélo de route que j'ai fait en groupe, c'était avec un groupe qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait le Paris Women Cycling Club.
Mmh.
Et l'idée, c'était vraiment de venir rouler entre filles, avec des allures hyper accessibles, et avec toute une team de femmes qui étaient suffisamment aguerries en vélo pour t'aider si jamais tu avais une petite réparation à faire, si jamais tu avais besoin de ça. Et je pense que moi, sans l'aide de ces personnes-là et de Sylvie qui avait fondé le Paris Women Cycling Club, je serais peut-être pas la cycliste que je suis aujourd'hui, parce qu'en fait elles m'ont montré que bah il y avait des façons de rouler où tu pouvais rouler en toute bienveillance, où en fait on t'attend, on t'aide, on t'explique des choses, enfin voilà, moi j'ai énormément appris avec elles, et je me suis dit bah s'il y a bien un truc que j'ai envie de transmettre aux femmes, c'est ça, c'est leur montrer, tu sais, enfin je sais pas si tu sais, mais on apprend beaucoup moins aux petites filles à faire du vélo qu'aux petits garçons.
Ouais,
et du coup à l'âge adulte, la proportion de femmes qui apprennent, les femmes adultes qui apprennent à faire du vélo est beaucoup plus élevée, alors que le vélo, au-delà d'un sport, c'est vraiment un moyen d'émancipation super important pour les femmes, pour se déplacer dans l'espace urbain, etc. Et du coup, ouais, moi je trouve ça assez dommage, quoi. Donc je me dis, bah si à ma petite échelle, je peux donner envie à des filles de découvrir ça, de faire du vélo, de se déplacer en vélo, c'est bon, le contrat il est 100% rempli, quoi. Moi c'est vraiment ce que je cherchais à faire, hein.
C'est un sujet que j'ai abordé il n'y a pas longtemps aussi avec les femmes dans la course. On disait que des fois pour les femmes c'est pas facile de courir, tu as des remarques, tu as des choses comme ça, c'est des choses aussi que tu constates en vélo.
Alors moi, de mon expérience, je sais que j'ai plein de mes copines qui ont eu cette expérience-là, donc ça doit arriver. Moi, de mon expérience, globalement, j'ai quand même été très entourée de gens très bienveillants qui m'ont aidée, qui m'ont appris des trucs. Ça a été plus facile de commencer avec des femmes. Mais par contre, quand j'ai roulé avec des hommes, en fait, je me suis dit ah bah c'est chouette. J'aime bien, je continue à apprendre, je continue à progresser grâce au groupe et grâce au collectif. Après, ouais, il y a des trucs, mais ça, c'est plus des trucs que j'ai vus en cyclo, tu vois, des mecs qui te mettent la main dans le dos pour te pousser alors que toi, t'as rien demandé, en fait. Toujours un peu, et quand tu dis bah non, et le mec te dit non, mais c'est pour t'aider, et tu fais mais va aider ton pote, en fait, genre moi, ça va, hein, t'inquiète pas. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais souvent, ça ne pas, enfin, le truc, c'est que ça part très rarement d'une mauvaise intention, en tout cas dans mon cas. C'est plus le côté, des fois, chevaleresque, je pense, de certains hommes qui cherchent à s'exprimer, alors qu'il n'est pas nécessaire ni attendu. Mais voilà, après, franchement, si je dois faire le ratio, j'ai quand même rencontré 100 fois plus de bienveillance, mais même en course à pied, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes, là-dessus, ou alors, je sais pas, mon esprit en a complètement fait fi, mais je trouve que on est dans des pratiques sportives où voilà, on s'encourage, on s'entraide, et j'essaye de pas mettre la question du genre au milieu de tout ça, quoi. Bon, après, je t'avoue que oui, sur certaines courses, en particulier sur des cyclos, je me rappelle, j'avais fait, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 180 avec le Ventoux. Ouais. Et quand je suis rentrée dans le sas de départ, je pense qu'il y avait une centaine de mecs et je crois qu'on était 5 femmes. Donc en fait, forcément, tu sens les regards des mecs qui disent « La petite dame, elle s'est perdue. Qu'est-ce qu'elle fait là ?» et puis voilà, et puis en fait, bah, après, tu pars dans la course et puis tu recroises les mecs et puis tu les doubles et puis à un moment, tu remets un peu les pendules à l'heure en disant « Bah ouais, mais... » enfin. On a peut-être des capacités physiques différentes, mais par contre, sur l'effort, qui plus est quand il est long, bah, le corps de la femme, il est super bien adapté. Donc du coup, ça donne des trucs assez rigolos, quoi.
Ouais, alors c'est d'ailleurs une question j'en ai posé à Nathalie Bayon la semaine dernière. Justement, cette histoire de dire que les différences en course, déjà, on le voit. La différence entre hommes et femmes sur des longues distances, on voit qu'il y a des femmes qui ont des sacrées performances. Cornedo Walter, encore, qui finit 7e de la Transcanarie. Ce week-end, enfin, qui est vraiment, c'est une performance, elle est pas très loin des hommes. Et dans le vélo, ce que je disais, c'est que on voit souvent, en fait, où t'as l'impression que l'écart il est encore plus faible. Alors, sur de l'endurance, il y a une étude. J'aurai bientôt l'auteur de l'étude, d'ailleurs, qui ils ont fait des études pour se rendre compte que vraiment, c'est vrai que chez les femmes, sur l'endurance, vous avez des capacités. Moi, j'ai pas lu toutes les études, etc. Je sais pas si tout le monde est capable de l'expliquer, mais toi, comment tu vois les choses, en fait? Est-ce que c'est tu parlais de fonctionnement du corps. Moi, je pense aussi que le fonctionnement du cerveau, on n'est pas tout à fait câblé pareil au départ des courses. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais pas toi, comment tu vois les choses.
Je pense qu'il y a plusieurs points. Je pense que le premier point, c'est que physiologiquement, les femmes ont quand même un pourcentage de masse grasse qui est plus important que celui des hommes. Mmh. Et du coup, sur de l'effort très long, bah, c'est vrai que tu viens taper là-dedans et que du coup, de manière physiologique, la femme a un corps qui est plus adapté à l'effort long. Ouais. Après, il y a un autre sujet, c'est que les femmes supportent beaucoup mieux la douleur, sont beaucoup plus programmées pour endurer, parce qu'elles sont programmées pour accoucher. Mmh. Donc, si tu veux, en termes d'ultra, ça se pose là. C'est quand même assez costaud. Et après, moi, je pense que là, les femmes arrivent doucement au niveau des hommes. Mais après, ma conviction personnelle, c'est que dans quelques années, sur les ultras, ce sera plus de femmes qui gagneront. Les femmes arrivent plus tard dans l'ultra. Il y a beaucoup de cyclistes assez récentes qui font des performances incroyables alors qu'elles ont 2-3 ans de vélo derrière elles, face à des mecs qui ont 10 ans, 15 ans, des fois des vies entières de cyclistes. Donc je me dis qu'avec toute la génération qui va arriver et de filles qui vont avoir le même niveau d'expérience similaire, la physiologie féminine va faire, et la psychologie aussi féminine vont faire la différence, et on va voir de plus en plus de femmes faire des podiums au général, quoi, et pas seulement des podiums par genre.
J'aime bien cette vision-là, en fait. Puis ma fille s'appelle Camille aussi, donc.
Bravo, très joli prénom.
J'aime bien cette vision-là, tu sais, de venir qu'il y a cette vision de dire, bah, elle pourra faire des choses, ou peut-être qu'on n'imaginait pas maintenant, mais tu sais, avec le progrès, enfin, moi, on lui apprend à faire du vélo parce que, en plus, c'est, je trouve que, comme tu le disais, c'est un moyen aussi de se déplacer. Moi, j'ai tellement roulé en vélo quand j'étais gamin, et puis après, j'avais oublié pendant des années. Mais je suis passé par le fixie aussi, tu sais, la mode fixie. J'en ai roulé pas mal, mais c'est vrai que j'aime bien cette vision. vision, tu vois, que tu partages là, de la femme, de dire que finalement, sur ces distances-là, en plus, on le voit. C'est vrai que moi, je suis fasciné. J'ai toujours été fasciné. J'ai toujours dit en course à pied, il y a un truc. Quand je me fais doubler par une femme sur un trail, je sais que je pourrais pas la suivre parce que c'est.
Ouais.
C'est comme ça. Je suis parti plus vite, elle part plus doucement. Mais une fois qu'elle me rattrape, c'est terminé. Mais c'est un constat et je l'ai fait souvent. Et maintenant, j'en rigole. La première fois, ça m'a un petit peu vexé. Mais ça, c'est mon côté macho d'éducation et j'en suis totalement désolé là-dessus. Mais j'étais élevé dans les années 80.
Écoute, déjà, le réaliser, c'est un grand pas. Hein.
Ouais, mais tu sais, cet épisode, en plus, il sera diffusé juste avant la Journée internationale des droits de la femme. Enfin, on est à une semaine, là, à peu près. Et donc, je suis dans cette thématique un petit peu. Et donc, je fais mon mea culpa, mais en me disant aussi, bon, les années 80, un peu côté macho, tu sais. Et on avait Rambo, on avait Schwarzenegger, on avait tous les trucs comme ça, tu sais, muscles et compagnie. Mais en fait, j'aime cette vision du sport, tu vois, de dire que femmes, elles pourraient gagner des courses dans de l'ultracyclisme, dans des choses comme ça, et on ne sait pas en fait, on voit les performances, tu vois. J'adore cette vision-là et je te remercie de l'avoir partagée en tout cas.
Écoute, avec plaisir. J'espère vraiment que ça va devenir réalité, mais je suis assez confiante là-dessus.
Bon, alors, on va quand même revenir sur le vélo un petit peu parce que moi, je suis débutant. Je te dis, moi, j'ai 200 km de gravel dans ma vie, dans le mois dernier, hein, tu vois. Quel ouais. conseil tu me donnes en fait pour progresser?
Le premier, c'est peut-être juste ce que tu me disais, si t'es frileux, bien t'équiper.
Ouais.
Parce que, mine de rien, le froid à vélo, c'est quelque chose de vraiment très, très dur. Et moi, je sais que, ouais, j'ai hyper rapidement, tu vois, acheté, moi, j'ai commencé à rouler un peu en hiver et du coup, j'ai vite acheté un cuissard d'hiver, j'ai acheté des surchaussures, j'ai acheté des gros gants. Mmh. Et ça a vraiment changé ma pratique parce que, du coup, ça m'a permis de rouler plus longtemps, tu vois, et de pas me dire au bout de 30-40 bornes, je suis frigo et il faut que je rentre et il faut que je me réchauffe. Donc ça, mine de rien, quand on débute, et c'est vrai quand on vient de la course à pied, qu'on est plus habitué, moi je peux courir en short toute l'année, tu vois, donc du coup c'était bizarre d'acheter un collant long.
Ouais, mais moi c'est pareil. Alors là, c'est le collant, il y a que pour courir, je le mets, que pour rouler, c'est vrai que ça me fait bizarre, mais bon, voilà.
Ouais. Mais tu vois, typiquement, ça déjà, je pense que ça peut être un bon truc. La deuxième chose, c'est c'est comme la course à pied, hein, y a pas de secret. Plus tu roules, mieux tu vas te sentir sur le vélo, plus tu vas avoir envie d'y aller, plus tu vas avoir des bonnes sensations. Et mine de rien, ça c'est vraiment vraiment cool. Après, si tu peux mixer, ouais, avec du yoga, avec des trucs qui permettent un peu d'étirer, notamment, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire sur tout ce qui est muscles de la nuque.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand tu roules très très longtemps, des fois t'as tendance à avoir des grosses douleurs dans les trapèzes, dans la nuque, etc. Parce qu'il faut porter quand même le poids de ta tête et du casque pendant toutes ces heures. Donc moi je sais que ouais, en plus du vélo, d'avoir toujours fait du yoga et du renfo, ça aide beaucoup beaucoup dans la pratique. Et après, le dernier truc, je te dirais, c'est d'essayer de se prévoir des petites aventures, tu vois. Ouais. De te fixer un peu, mais ça, c'est comme dans tout. Mais c'est se fixer des objectifs, genre, le mois dernier, t'as fait 200, peut-être que ce mois-ci, tu peux faire 300. Et puis, peut-être qu'au mois de mai, quand il fait un peu beau, tu peux te dire, OK, là, je pars sur un week-end. Et j'essaye de faire cette distance j'essaye de faire un 150 sur le week-end, je fais 75 le samedi, je dors quelque part, et t'es pas obligé de camper, et t'es pas obligé, tu peux très bien te prendre un hôtel. Moi, mes premiers voyages à vélo, c'était des voyages à l'hôtel, hein, c'était juste pour apprendre ce que c'était de voyager avec le vélo, quand même avec une sacoche, avec des changes, avec tout ça, mais par contre, rouler toute la journée, faire une bonne nuit à l'hôtel, pouvoir prendre ta douche, repartir le lendemain matin. Et même ça, c'est déjà une super cool expérience, parce que faire deux grosses journées d'affilée, ça va t'apprendre plein plein de trucs sur ton corps, sur la façon dont tu pratiques, etc. quoi.
Ouais. Moi, mi-mai, j'ai un Half Gravelman qui est planifié.
Trop bien.
Ouais, mais en fait, j'ai dit, parce que le but de mon aventure de l'année et du podcast, c'est justement de dire, je vais aller jusqu'au Gravelman et tout, découvrir ça. Et puis, je me suis dit, je vais me placer un half au milieu. Et ça tombe bien, j'ai un half qui est pas trop loin de la maison, qui a une heure de la maison. Je me suis dit, allez, on va partir là-dessus. Il y en avait un autre qui me tentait, mais c'était un Gravel Woman. En fait, il est réservé aux femmes.
Ouais.
À Gruissant, là. Mais alors, d'un côté, je dis, le terrain est sympa, mais alors, celles qui vont le faire avec les caillasses qu'il y a, ça va pas être facile. Hein, parce que c'est comme j'ai vu que tu avais fait une course en l'Hérault, j'imagine. Et t'es en gravel, ta course en l'Hérault que tu avais faite?
Ouais, c'était en gravel, ouais, ouais.
Ouais, j'imagine ça doit être, enfin, il doit y avoir de la caillasse quand même. Hein.
Bah, écoute, ils avaient fait un parcours. C'est en fait, c'est les Roltes qui organisent ça. Donc, c'est la grosse cyclo de l'Hérault de l'année.
Ouais.
Et ils avaient fait, ouais, un parcours gravel. Et écoute, ils avaient mappé ça. Et pourtant, moi, j'ai une partie de ma famille qui vit dans l'Hérault, donc je connais. Et pour le coup, je me suis retrouvée souvent sur des pistes de VTT en gravel à prendre pas trop de plaisir. Et là, ils avaient fait une map qui était vraiment gravel.
Ouais.
Genre, c'était incroyable. Ils avaient trouvé genre tous les petits chemins, mais il n'y avait aucun passage technique qui nécessitait de poser le pied à terre. Mmh. Et du coup, ça, c'était vraiment super. Après, je pense qu'ils continuent à développer le format et je pense qu'il y aura de plus en plus de monde. Nous, sur la première édition, c'est vrai qu'on n'était pas très très nombreux, mais par contre, la trace, elle était vraiment pépite, quoi.
Non, mais ça, c'est cool, c'est vrai, parce que même moi, sur des chemins, alors ce que j'appelle les gros chemins à tracteur, là, le paysan, enfin l'agriculteur du coin, il a une tendance à mettre des gros cailloux maintenant, alors qu'en gravel sont insupportables. Et puis le voisin, lui, met des graviers, alors qu'il, tu sais, des espèces de. Non, mais espèce de truc. Et l'autre jour, j'ai rigolé, j'ai dit, parce que, alors, le pire truc, c'est avec ton gravel, tu roules dans du gravier, ça part dans tous les sens, etc. Et franchement, il y a des chemins qui n'étaient pas très agréables. Bon, après, je me suis embousé aussi dans de la terre, dans de la glaise l'autre jour. Donc, moi, j'ai mes aventures, tu vois, je découvre des trucs que j'avais pas du tout en course à pied, tu vois, c'est, ouais. C'est marrant. C'est vraiment un nouveau jeu. Et quand tu dis déjà, tu vois, dans mes 200 premiers kilomètres, je suis beaucoup plus à l'aise. Déjà, je m'en rends compte vraiment. Bon, encore les descentes gravel, il y a des endroits, j'ai un petit peu de mal. Hein, parce qu'il faut que je me rappelle un peu comment ça, tout ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est, il y a vraiment, on peut vraiment s'amuser, quoi.
Ah ouais, complètement. Et puis après, bah, à voir dans quelle mesure tu veux faire ça. Mais c'est vrai que tu peux aussi soit demander à des gens autour de toi, soit prendre même des cours de pilotage. Mmh. Avec un prof de VTT. Ouais. Moi, je sais que bon, j'ai beaucoup de potes qui viennent du VTT qui m'ont quand même briefé pas mal, bah, justement, sur comment bien descendre, comment tu vois bien te positionner sur ton vélo pour prendre du plaisir, parce que ça doit rester ça et ça doit rester. Pour moi, je veux jamais que les descentes ce soit un moment de crispation. Ça doit plutôt être un moment de plaisir, voire de récupération, idéalement, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ça, bah, plus t'es à l'aise sur ton vélo, plus tu vas être à l'aise dans les différents terrains. Mmh. Et en fait, ça te permet aussi sur l'épreuve en elle-même de gagner du temps. Parce que s'il y a des passages, bah, tu vois, moi là, au Pays Basque et après dans les Landes, il y a beaucoup de sable.
Ouais.
Et du coup, quand je suis arrivée, rouler dans le sable, je descendais puis je poussais le vélo, en fait. Hein. Je ne me posais pas la question. Et au bout de quelques années, bah, en fait, t'apprends à rouler dans le sable, t'apprends à avancer. Et du coup, et puis c'est kiffant, en plus, tu vois, parce que tu reviens à cet état d'enfant où, en fait, mais c'est exactement ce que tu dis, hein, où t'es dans l'expérimentation et dans la découverte. Et je trouve que dans le vélo, quand tu reprends le vélo à l'âge adulte, bah, tu retrouves des sensations de quand t'étais petit en disant « Ah non, mais ça fait un peu peur, mais quand même, je vais le faire. » Ou « Ah là là, mais ça, je sais pas comment je vais aller dedans. » Et puis, ça passe. Et du coup, je pense que ouais, si tu gardes toujours cette notion de jeu et te dire bah, progresser en s'amusant, c'est vrai que ça marche toujours, quoi.
Ouais. Tiens, j'ai une question que j'ai posée à toute ma communauté et que je n'ai pas eu de réponse franche. Et enfin, il y a un vrai débat et je l'ai posé à Nathalie Bagnon aussi. C'est sur les pneus. Le débat entre chambre à air et tubeless en gravel. Alors, je sais pas si toi, quel est ton avis là-dessus, mais alors, j'ai un 50-50 sur mes sondages, donc personne ne m'a éclairé. Hein.
Non, mais je crois que c'est propre à chacun. Moi, perso, je suis team tubeless tout le temps.
Ouais.
Je roule en tubeless depuis que j'ai eu des vélos j'ai eu des roues et des pneus qu'on pouvait mettre en tubeless. Donc moi je suis très très partisane du tubeless. Globalement en tout cas, je sais que pour moi ça marche. Je pense que ça dépend un peu aussi de ton mode de pilotage. Moi j'ai pas un pilotage très engagé, donc du coup il est très rare quand même que je risque de mettre une grosse entaille à mon pneu ou des choses comme ça. Donc en général c'est vraiment des petites des micro trucs où le tubeless fait très très bien le job. Après rien ne t'empêche de toute façon, puis en plus l'avantage c'est que t'es en tubeless, tu prends quand même une chambre au cas où. Mmh. Et si vraiment ton tube laisse full camp, et bah tu mets ta chambre. Bon, tu auras les mains un peu crades, mais ça va très bien se régler. Alors que si tu n'as que des chambres, bah en fait, sur plusieurs jours, tu vas en passer une, tu vas en passer deux, et puis à un moment, tu vas chercher le Decathlon le plus proche de chez toi, parce que tu vas vraiment être en galère, quoi.
Ouais. De toute façon, cette histoire, je le répète, c'est que dans le Gravelman, c'est obligatoire d'avoir une chambre à air ou au moins deux, hein, ça fait partie du règlement.
Ouais.
Donc ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un débat, et j'ai eu plein d'avis dans tous les sens, etc. Et c'est vraiment partagé, mais toi, tu vois, j'aime bien ton avis qui est très net, au moins comme ça, tu sais, j'ai pas le « ça dépend ». Là, au moins, tac, c'est net. Et je te remercie pour cet avis net et tranché comme ça. Bon, écoute, moi, j'ai appris plein de trucs, en tout cas. Je vois mieux tout. Et puis, je te remercie beaucoup pour les conseils, pour les astuces que tu as pu donner. Tu prépares des trucs particuliers. T'as, cette année, je sais pas comment tu le vois. Parce qu'à une époque, sur ton blog, alors, ton blog, je dois dire, il y a plein d'infos, c'est super intéressant. Et tu t'annonçais un peu tes programmes de course, ce que tu faisais, etc. C'est moins le cas maintenant.
Ouais, en fait, moment vie perso, j'ai eu pas mal de trucs en 2022. J'ai acheté ma maison, j'ai changé de taf, j'ai fait 1000 trucs en même temps. Donc du coup, ça a été un peu compliqué sportivement. Et là, je commence tout juste à vraiment reprendre le vélo avec un petit peu de discipline, de rigueur et d'envie.
Ouais.
Donc là, on organise un séjour avec Nathalie Bayon, notamment aux terrasses du lac, c'est en Lozère. Mmh. Et du coup, on fait un séjour 100% cyclisme féminin, ouais, qui va arriver bientôt, là, en avril. Donc ça va être un super moment. Et j'ai bien hâte d'y aller. Après, niveau course, je pense que je vais attendre encore un petit peu parce que là, j'ai pas, je te l'ai dit, hein, préparer. En tout cas, moi, préparer un ultra, ça me prend beaucoup de temps.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'était un peu une denrée rare derrière laquelle je cours. Donc, j'attends que ma situation se stabilise un peu pour vraiment pouvoir faire ça. Après, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'aimerais bien faire un tour du Mont Blanc en VTT. Mon rêve absolu, c'est de faire la Great Divide, qui est une traversée des États-Unis en VTT aussi. Donc, j'ai plein d'envies. J'ai pas forcément de grosses envies de course là sur les mois à venir, mais ça viendra peut-être à changer. Mais c'est vrai que s'inscrire à une course, là, je pense que tu le vis avec ta prépa Gravelman, ça crée quand même des attentes, ça crée une petite pression. Et voilà, et moi en ce moment, j'ai pas du tout envie de me mettre de la pression, j'ai vraiment envie d'être dans une pratique plaisir et du coup, je me concentre à fond sur qu'est-ce qui m'a fait aimer le vélo et pourquoi j'ai besoin d'en faire, quoi.
Ben écoute, je trouve que c'est une très belle manière de voir les choses. C'est exactement ça, comme ça aussi que je le vivais dans la course à pied. C'est vrai que dans le vélo, bon, moi je me suis mis l'objectif pour me forcer à rouler, pour vraiment prendre l'habitude. Puis en fait, c'est mon rêve. Enfin, c'est à cause de Cyril Yarrick aussi. C'est à force d'avoir dans mes podcasts de course, il a fini par par me filer un truc. Ça, et je dis bon, allez, ça me tente trop. Et puis c'est vrai que je redécouvre. Et ce qu'on disait, hein, ce côté enfant et tout, le jour je chantais sur mon vélo parce qu'il y avait du soleil, ça roulait. Donc j'en ai fait un réel sur Instagram, j'ai dit mais c'est pas possible quand même, qu'est-ce qui se passe, et même des fois, et alors je vais faire une confidence pour ceux qui écoutent Kilomètre 42, ils vont se dire mais il devient fou le gars, il y a des jours en fait où je trouve que courir ça devient presque un peu plus ennuyeux que de faire du vélo, tu vois, et parce qu'il y a un côté jeu, alors j'ai le côté jeu dans la course, hein, j'arrive à l'avoir, mais dans le vélo je crois qu'il y a le côté vitesse qui est un peu grisant en fait, qu'il n'y a pas dans la course, ou que j'ai plus difficilement dans la course en tout cas actuellement, mais je sais pas trop à l'expliquer, mais en tout cas ça fait partie de ma découverte du moment.
Oui, non, mais je pense que ça nous ramène un peu à notre enfant intérieur de faire du vélo.
Ouais.
Et du coup, je pense qu'il y a de ça aussi dans le plaisir qu'on prend, c'est qu'on retrouve des sensations que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas expérimenté. Du coup, c'est plutôt chouette, quoi.
Ouais, ouais. Mon enfant intérieur, il s'exprimait beaucoup quand je sautais dans les flaques debout pieds nus sur les chemins, parce que je cours pieds nus, mais ça, je l'ai dit. Fait partie de mon truc aussi, courir pieds nus dans les chemins l'été, et puis quand il y a une flaque de boue, je saute dedans les deux pieds joints, je cours en sandales, enfin il y a des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le vélo, il y a le côté enfant intérieur aussi qui revient. Bon bah écoute, en tout cas c'était un plaisir de discuter avec toi de tous ces sujets-là. Je mettrai bien entendu tous les liens pour te suivre, parce que alors, donc on a parlé de ton blog, Instagram, Strava, il y a d'autres endroits où...
Komoot. Je suis sur Komoot aussi, je mets les traces, les bonnes traces du Pays Basque sont sur Komoot.
Eh ben, écoute, et puis si, alors je sais pas si il y avoir des femmes qui sont intéressées. Tu parlais là, le stage pour les femmes dans Lozère, c'est quoi? C'est à Naussac, hein,
ouais. Ouais, c'est à Naussac, ouais. La session d'avril, il me semble, est complète, mais on a ouvert une autre date en octobre. Donc voilà, donc du coup, s'il y a des cyclistes, on va faire différents groupes de niveau parce qu'on veut vraiment ouvrir à toutes. Ouais. Donc s'il y a des filles que ça intéresse, et ben on sera très très heureuse de les accueillir. Il y a une super équipe qui est 100% féminine qui organise ça, donc je pense que ça va être super sympa.
Eh ben écoute, je mettrai tous les liens. De toute façon, les gens, ils savent où vous contacter, hein, comme ça, s'ils veulent avoir des informations. Je te remercie beaucoup, Camille, pour ce moment partagé.
Bah, avec grand plaisir. Et puis, j'ai très, très hâte, du coup, de suivre le reste de tes aventures et de voir ton Gravelman. Ça va être super.
Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une belle continuation. Et puis, je te tiens au courant. Je partagerai ça de toute façon sur Instagram. Il y a un moment donné, je partage tout. Et comme sur le 24 heures, j'avais fait un inside de 24 heures en courant, en enregistrant au fur et à mesure des petites capsules. Je me dis que sur le Gravelman, il y aurait moyen de faire aussi un truc un peu rigolo. Bref,
c'est pas clair. Fini.
L'aventure n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et en tout cas, tu fais partie des personnes qui m'aident à franchir des pas. Tu vois, j'ai noté tous les conseils. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, nous, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore si c'est invité ou tout seul, parce que bah, il faut quand même que je fasse un peu état de mes progrès, hein, un petit peu où j'en suis. Mais en tout cas, on se retrouve bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Merci beaucoup à toi aussi. À très vite. Salut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.